France Inter.
Enquête de politique, chaque semaine, nous explorons une idée, une tendance, un mouvement politique, son histoire et son actualité, son poids sur nos consciences et dans nos débats.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Et aujourd'hui, le colonialisme, l'idée noire de la République, première partie.
Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je dis que les races supérieures ont des devoirs.
Prenez-la où vous voudrez et quand vous voudrez, et vous verrez combien de crimes atroces, effroyables, ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Et c'est un pareil système que vous essayez de justifier en France, dans la patrie des droits de l'homme.
La colonisation est un fait politique, un fait historique, une période bien précise, mais le colonialisme, c'est autre chose. C'est une idée politique qui ne se limite pas à la période des colonies. Voilà pourquoi le colonialisme a toute sa place dans Enquête de politique. Aujourd'hui, le post-colonialisme, le néocolonialisme, le décolonialisme sont des concepts qui alimentent et bien souvent électrisent le débat politique. Il faut donc revenir à l'histoire de cette idée, non pas à l'histoire des colonies, ni de la colonisation. On comprend aisément la logique impériale des puissances qui poussent les pouvoirs successifs du 19e siècle à vouloir la France en grand. On comprend, enfin, on admet la logique économique de prédation, mais plus intrigante est la logique politique de la République à partir de 1880 à promouvoir, avec des raisons philosophiques, ce grand dessein civilisateur qui sera en réalité un crime à grande échelle. Dans le débat du moment, entre repentance et fierté, mémoire réconciliable ou pas, des arguments que l'on croyait ensevelis sous la réalité historique désormais établie renaissent. On leur a quand même fait des ponts, on les a quand même vaccinés. Alors pour faire le point sur la construction de cette idée politique républicaine au 19e siècle, j'ai été voir trois historiens, Pierre Saint-Garavelou, professeur au King's College de Londres et à la Sorbonne, Guillaume Blanc de l'université de Rennes 2 et Sylvie Thénault, spécialiste de la colonisation et de la décolonisation en Algérie. Elle est directrice de recherche au CNRS. Ces trois historiens nous accompagneront aujourd'hui et la semaine prochaine. Il s'agit de politique, alors ça passe par le Parlement. Deux grandes voix de la République, deux universalistes, deux héritiers de la philosophie des Lumières, Jules Ferry et Georges Clemenceau, et pourtant deux avis diamétralement opposés s'agissant de la colonisation. Première rencontre avec Pierre Saint-Garavelou à la Sorbonne.
Oui, on voit bien en 1885 au Parlement, l'expansion coloniale, cette question politique divise profondément les républicains eux-mêmes. Puisque Jules Ferry, qui est un des chefs des républicains dits opportunistes, défend le projet colonial, notamment l'expansion française dans ce qui va devenir l'Indochine, au Tonkin, précisément au nord de l'actuel Vietnam. Face à lui, Georges Clemenceau, représentant des républicains dits radicaux, s'y oppose fermement. Alors, ils défendent tous les deux deux conceptions des droits de l'homme, des Lumières et de l'héritage de la Révolution. D'un côté, Jules Ferry estime que la Troisième République doit diffuser les Lumières dans le monde entier, quitte à les imposer par la force, que la France incarne une de ces races supérieures qui doit précisément civiliser toutes les races arriérées, les races dites inférieures. Au contraire, Clemenceau, eh bien, à ce moment-là, est un homme politique très curieux du reste du monde. Hein. Il s'intéresse déjà beaucoup à l'Extrême-Orient, il connaît très très bien la culture et les arts japonais. Et donc Clemenceau est attentif à ce principe d'égalité des hommes, lui aussi hérité de la Révolution française.
Pour lui, il n'y a pas de race supérieure ou de race inférieure.
Non, ce principe en fait moral est très important, mais il considère également qu'il s'agit d'une question économique et pragmatique, et que le gouvernement français a mieux à faire et doit notamment se concentrer sur les affaires intérieures françaises.
Oui, parce que vous nous avez dit, Pierre Saint-Garavelou, que Jules Ferry avait cet esprit universaliste et voulait aller civiliser le reste de la planète, mais dans son discours, il y a aussi un aspect économique. Il faut trouver des marchés, des débouchés, dit-il. Il y a aussi l'aspect économique. Qu'est-ce qui prime dans la démarche colonialiste de Jules Ferry et les opportunistes à l'époque? Le côté politique, universel, philosophique, ou le côté économique à un moment où la France se cherche industriellement?
Tous ces facteurs sont également importants dans la pensée coloniale républicaine. Hein. Il s'agit d'étendre l'influence de la France dans le monde. Donc il y a cette idée qui apparaît à peu près au même moment de francophonie. L'idée que les colonies constituent de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés de consommateurs. Et puis il y a cet impératif moral hérité de l'idéal universaliste de la Révolution française. Donc c'est cet ensemble de facteurs qui motive les républicains français favorables à la colonisation.
Alors on va d'abord écouter Jules Ferry justifier la colonisation d'un point de vue économique.
Les colonies sont aussi, pour les pays riches, un placement de capitaux des plus avantageux. Pour les capitalistes ! Eh oui ! Est-ce qu'il vous est indifférent, monsieur Brialou, que la somme des capitaux s'accroisse dans ce pays par des placements intelligents? La fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché. Ce qui manque à notre grande industrie, ce sont les débouchés, parce qu'à côté d'elle, l'Allemagne se couvre de barrières. Il y a un second ordre d'idées que je dois également aborder, c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je dis que les races supérieures ont des devoirs.
Allons donc !
Mais ces devoirs, messieurs, ont été souvent méconnus dans l'histoire. Quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'Amérique centrale, ils n'accomplissaient pas leur devoir d'homme de race supérieure. Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de la civilisation. Est-ce que quelqu'un peut nier qu'il y a plus de justice, plus d'ordre matériel et plus d'équité, plus de vertu sociale dans l'Afrique du Nord depuis que la France a fait sa conquête? Est-il possible de nier que dans l'Inde, il y a aujourd'hui infiniment plus de justice, d'ordre, de vertus publiques et privées depuis la conquête anglaise qu'auparavant?
On vient d'entendre Jules Ferry, ce discours devant la Chambre des députés le 29 juillet 1885, rejoué par les comédiens de la Comédie française en 2014 pour Radio France. Chronologiquement, dans son discours, ça commence par l'économie.
Oui, les libéraux français se sont convertis massivement au projet colonial français. C'est-à-dire que dans la première moitié du 19e siècle, un grand nombre de théoriciens du libéralisme, d'économistes libéraux sont réticents à l'égard de l'expansion coloniale et de la constitution d'un empire, parce que c'est en raison de l'héritage mercantiliste. On associe bien souvent impérialisme et mercantilisme et protectionnisme. Et à partir des années 1860-1870, ces élites économiques se convertissent massivement à cette idée d'empire colonial.
Ah, mes amis, tout près de vous, il y a le Maroc. Quel champ admirable pour notre activité.
Extrait d'un film pour Antenne 2 en 1980.
C'est là que vous trouverez des gisements de phosphate et des mines de fer, des terres à blé et des plants d'olivier. C'est là qu'il y aura des cotonnades à vendre pour nos industries de Rouen et des Vosges, et des laines à acheter pour nos filatures de Roubaix et de Tourcoing, et des chemins de fer à construire et des ports à creuser. À quoi bon vous chamailler entre vous? Je vais vous confier un secret. Mon vieil ami Delcassé négocie en ce moment avec l'Angleterre. En échange de quelques concessions en Égypte, nous allons avoir les mains libres de la Moulouya à l'océan et de Tanger au Sahara. Buvons à l'avenir de la France au Maroc.
Bordeaux est connecté aux Antilles, au Maroc et au Sénégal. Marseille, bien sûr, avec l'Algérie et une grande partie de l'Afrique subsaharienne. Le Havre avec les Antilles. Lyon avec l'Asie. Ces différentes villes françaises promeuvent l'expansion coloniale au début de la Troisième République à travers des lobbies qui se développent dans les chambres de commerce, dans les universités de province, à Bordeaux, à Lyon, au Havre, etc. Dans ces instituts coloniaux qui sont créés à la fin du XIXe siècle pour promouvoir des sciences coloniales qui sont dédiées à l'étude des populations colonisées et des pays colonisés et qui illustrent bien ce modèle français de la colonisation dite rationnelle. La colonisation doit être réalisée scientifiquement. C'est pourquoi ces nouvelles sciences coloniales vont s'épanouir dans toutes les universités françaises pour former les élites françaises, les élites métropolitaines, afin qu'elles puissent participer pleinement à ce projet impérial.
Est-ce que la philosophie, le républicanisme, l'universalisme est un peu un prétexte ou c'est vraiment sincère ?
Les deux, d'une certaine manière, parce que les acteurs ont besoin de croire en ce qu'ils font. Et donc, un grand nombre de femmes et d'hommes du 19e et du 20e siècle ont cru sincèrement apporter les lumières dans ces territoires ultramarins. Mais il n'en reste pas moins que, objectivement, ce discours républicain universaliste est avant tout une justification, une légitimation de ce projet colonial, qui est un projet d'exploitation des ressources naturelles sur place, de la main-d'œuvre locale. Et donc, de ce point de vue, a posteriori, évidemment, ce discours universaliste était en grande partie fallacieux.
Mais face à cet expansionniste voulu par Jules Ferry, Pierre Saint-Caravelou, une partie importante de la classe politique s'inquiète parce que, après la guerre de 70, l'Alsace et la Lorraine, la Moselle, ne sont plus français et on se dit, voilà, on va partir dans des expéditions, dépenser notre énergie à l'extérieur et on va oublier de reconquérir notre territoire naturel, celui de l'Hexagone.
Oui, en effet, le discours de Jules Ferry suscite immédiatement des réactions négatives au sein même du Parlement, notamment en provenance de la droite, qui considère que, comme le dit Charles Maurras, le projet colonial est un dérivatif qui ne fait que détourner l'opinion publique française de la question fondamentale qui est celle de la reconquête de l'Alsace et de la Moselle. Et puis la droite rurale, qui est attachée à la défense des intérêts des paysans français en métropole, considère que le projet colonial est beaucoup trop coûteux et qu'en fait il faut absolument que le gouvernement français se consacre entièrement à l'administration des territoires de la métropole.
Donc la droite est anticoloniale et la gauche, quasiment dans son ensemble, est plutôt colonialiste.
Oui, disons qu'en plus depuis longtemps, puisqu'on peut remonter au socialisme utopique, ces socialistes de la première moitié du 19e siècle s'intéressent beaucoup aux projets coloniaux, notamment en Algérie à partir de 1830, parce qu'ils y voient un formidable laboratoire pour expérimenter leurs idées. Donc les socialistes défendront une vision progressiste de la colonisation tout au long du 19e siècle, y compris Jaurès, le jeune Jaurès sera un promoteur du projet colonial, avant de s'en détourner au début du XXe siècle, où il critiquera, par exemple, précisément, le projet colonial au Maroc.
Et alors là, Clémenceau, que nous allons écouter, fait figure d'exception.
Race supérieure, race inférieure. J'en rabasse singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer « homme inférieur ». Les hindous, avec cette grande civilisation raffinée qui se perd dans la nuit des temps, race inférieure, les Chinois, Confucius. Vous nous dites, voyez, lorsque les Européens se sont trouvés en contact avec des nations que vous appelez barbares et que je trouve très civilisées, n'y a-t-il pas eu plus grand développement de moralité, de vertu sociale?
Oui.
Mais en êtes-vous bien sûr? Regardez l'histoire de la conquête de ces peuples que vous dites barbares, et vous y verrez la violence, tous les crimes déchaînés, l'oppression, le sang coulant à flot et le faible opprimé, tyrannisé par le vainqueur. Voilà l'histoire de notre civilisation. Prenez-la où vous voudrez et quand vous voudrez, et vous verrez combien de crimes atroces, effroyables, ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Et c'est un pareil système que vous essayez de justifier en France, dans la patrie des droits de l'homme. La conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s'approprier l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Ce n'est pas le droit, c'en est la négation.
Très bien, très bien.
Pierre Saint-Caravelou, le Clémenceau qu'on vient d'entendre est très minoritaire à la Chambre.
Le Clémenceau qu'on vient d'entendre n'est pas si isolé que cela, puisqu'il est rejoint par l'extrême gauche et par une bonne partie de la droite. Disons qu'ensuite, ce qui est intéressant, c'est que...
Il est minoritaire à gauche.
Il est minoritaire à gauche et il va ensuite progressivement se rallier, disons, au projet colonial, puisque ensuite, lorsqu'il va arriver aux affaires, il sera très pragmatique hein,
au début du XXe siècle.
Il ne mènera pas de politique anticoloniale et à ce moment-là, eh bien, la droite et l'extrême droite elle-même s'approprie cet idéal colonialiste, hein, au point que, eh bien, l'Action française, représentant les royalistes qui étaient opposés au projet colonial dans les années 1870-1880, deviennent les fers de lance du colonialisme français dans l'entre-deux-guerres.
Le colonialisme de l'Action française n'est plus basé sur la mission civilisatrice républicaine.
Il est fondé sur une politique de puissance et de prestige. C'est une idéologie qui va beaucoup inspirer le régime de Vichy. Vichy étant le gouvernement français qui tentera de promouvoir le plus l'idéologie impériale en métropole et d'essayer de fonder sa puissance sur les colonies, notamment sur l'Indochine.
Alors Pierre Saint-Garavelou, on revient quand même à la fin du 19e siècle avec Jules Ferry et les opportunistes. Cette mission civilisatrice sur le terrain, en Asie, en Afrique, est-ce qu'elle a eu des effets ?
Alors elle a eu des effets, oui, elle a eu des effets souvent destructeurs, mais ce qui est intéressant à travers les recherches qui ont été menées ces 30 dernières années, eh bien c'est qu'on s'aperçoit surtout qu'il y a un décalage énorme entre les principes affichés par les républicains et puis la réalité des pratiques et des réalisations. L'école française, l'école républicaine aux colonies n'ont accueilli qu'une infime minorité de jeunes colonisés en âge d'être scolarisés. Souvent moins de 5% des jeunes étaient scolarisés et au maximum 10% des jeunes musulmans étaient scolarisés en Algérie au milieu des années 1930. Donc on voit bien comment, en dépit des principes affichés, le gouvernement français sous la Troisième République, les différents gouvernements français, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont toujours respecté un principe qui était au fond de mener une politique conservatrice dans les colonies et répressive en investissant le moins possible. C'est le fameux principe d'autonomie financière, c'est-à-dire que les colonies doivent se financer elles-mêmes avec leurs propres ressources, ce qui explique qu'en fait la plupart des colonies étaient totalement sous-encadrées, très peu d'instituteurs, très peu de médecins et d'infirmières. Et donc ça, c'est évidemment la première explication du faible impact de cette fameuse mission civilisatrice sur le terrain.
Dans la population, au moment où il y a l'expansion de ces colonies, est-ce que c'est perçu comme un Eldorado ? Est-ce que on veut aller y faire fortune ? Est-ce qu'on veut aller à l'aventure comme des pionniers ?
Alors les élites républicaines, à partir des années 1870-1880, tente de convaincre l'opinion publique française du bien fondé de ce projet colonial, notamment pour susciter des mouvements migratoires. Essayer d'encourager les Français à aller s'installer comme colons outre-mer, en Algérie ou ailleurs. On s'aperçoit que se développe alors une grande propagande coloniale et impériale qui est finalement un échec parce que l'émigration française en direction des colonies a toujours été très faible. La carrière coloniale ne fait pas rêver, il y a assez peu de vocations coloniales.
La colonisation piétine. À quoi sert de conquérir des terres si personne ne vient les occuper ?
Personne n'a envie de venir s'installer dans un pays lointain qui n'est pas encore entièrement pacifié.
Le général Bugeaud expose sa politique de peuplement autoritaire de l'Algérie au milieu du 19e siècle, extrait de L'Algérie des Chimères, téléfilm de France 2 en 2003.
Il le sera, la Mauricière, il le sera. Je vous fiche mon billet que nous allons nettoyer cette racaille. Je vais y mettre ce qu'il faut. Mais je ne veux pas faire ça pour des colons suisses ou autrichiens, ignares et ivrognes.
Pour exploiter ces territoires immenses et négligés par les nomades que sont les Arabes, il nous faut de grandes sociétés capitalistes disposant de moyens importants. C'est la solution moderne et efficace que nous préconisons.
Je reconnais bien là les théories fumeuses de vos amis saint-simoniens, tous des rêveurs. Je n'ai pas fait polytechnique. Moi, je suis un soldat et un paysan. J'ai tout appris dans ma ferme du Limousin, par le glaive et par la charrue. C'est ma devise. J'installe ici mes vétérans une fois leurs années de service terminées. Charrue, cheval, fusil. Je leur procure même une femme.
Des indigènes ?
Mon chef d'état-major, qui est maintenant à la retraite, est devenu maire de Toulon. Alors il me ramasse des domestiques, des veuves, des femmes seules. Vous m'avez compris. Venez donc avec moi demain à Fouca, Jean-Marie V.
Alors le premier facteur, c'est un facteur démographique. Pendant toute cette période, la France manque de bras. À tel point que la principale colonie de la France, qui est l'Algérie, eh bien, pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle, le gouvernement français d'Algérie doit importer de la main-d'œuvre des autres pays européens, d'Espagne, d'Italie, de Sicile, de Malte, parce que les Français ne s'installent pas en nombre suffisant. Et donc, à la fin du 19e siècle, les Français deviennent minoritaires, en quelque sorte, parmi les Européens d'Algérie. Et c'est pourquoi le gouvernement français décide de naturaliser ces Espagnols, ces Italiens, pour en faire des Français, des colons français, pour éviter toute tentative de séparatisme par rapport à la métropole.
France Inter. Thomas Legrand.
Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'idée colonialiste. Deux émissions pour ce thème, deux numéros d'Enquête de politique, cette semaine et la semaine prochaine, que vous pouvez déjà podcaster. Pour ce premier épisode, nous nous intéressons d'abord au débat Ferry-Clemenceau, 1885. On retrouve Pierre Saint-Garavelou, professeur au King's College de Londres et à la Sorbonne, spécialiste de la colonisation et de la mondialisation.
Alors, si on suit Jules Ferry au pied de la lettre, il s'agit d'élever, pour reprendre son terme, d'élever ces races inférieures au même niveau, en l'occurrence, que les Français. Et donc, Ferry croit au progrès.
Et il est universaliste, donc il pense que tous les hommes potentiellement se valent.
Il est persuadé que ces habitants des colonies peuvent, grâce à l'action civilisatrice de la France, à ses écoles, à la langue française, à l'action aussi de l'économie française et de l'industrie française, eh bien ces populations pourront accéder finalement à la civilisation et également à la liberté, hein, en accédant à l'émancipation politique à terme.
Pourtant, à l'université française, à ce moment-là, il y a des scientifiques qui tentent de démontrer que les races ne sont pas égales.
Oui, au même moment, en 1885, à la Société d'anthropologie de Paris, les élèves de Paul Broca, ces différents anthropologues et spécialistes, considèrent que ces habitants des colonies, eh bien, sont biologiquement inférieurs aux populations européennes. Ils tentent de le démontrer grâce à une nouvelle pseudo-science, la craniométrie, hein, en remplissant les crânes de billes. Ils tentent de montrer que le volume du cerveau de telle ou telle population ultramarine est beaucoup moins important que celui d'un Français moyen. Précisément en 1885, seule une minorité d'intellectuels conteste ces études pseudo-scientifiques, minorité parmi lesquelles un certain Anténor Firmin, un diplomate, un journaliste, avocat haïtien, qui s'inscrit à la Société d'anthropologie de Paris et qui écrit un livre publié précisément en 1885, l'année du discours de Jules Ferry, un livre intitulé « Essai sur l'égalité des races humaines » qui répond au fameux essai raciste d'Arthur de Gobineau publié au milieu des années 1850, Essai sur l'inégalité des races humaines. Et dans ce livre, Anténor Firmin, cet intellectuel haïtien, démontre scientifiquement que tous les hommes sont égaux.
Mais à l'époque, ce livre passe un peu inaperçu, alors que les travaux de Gobineau sont publiés plus largement et d'ailleurs inspireront les théoriciens du nazisme.
Oui, Gobineau est lu, étudié, admiré en cette fin de 19e siècle, et puis il aura une triste postérité, comme vous le rappelez, tandis que Anténor Firmin sera oublié très rapidement, et il a été redécouvert que très récemment.
Voilà, plus toujours en guerre.
Kenja Fakoli, France-Afrique. Et c'est le moment de retrouver Aurélie Marcirot, un livre à nous conseiller pour aller plus loin, encore plus loin sur notre sujet du jour, chaque semaine. Et vous avez choisi de nous parler aujourd'hui, Aurélie, d'un livre qui vient de sortir, Un empire bon marché, de Denis Cogniaux au Seuil.
Oui, l'auteur est professeur à l'École d'économie de Paris, directeur d'études à l'EHESS, et ses travaux portent sur les économies africaines. Alors l'ouvrage est très documenté, on y trouve tableaux, cartes, graphiques. Il traite de l'empire colonial français au 19e et 20e et entend éclairer, je cite, les zones d'ombre qui persistent dans l'histoire économique et sociale de la colonisation.
Et comment ?
Via un travail colossal de collecte de données économiques et sociales sur les structures et l'action de l'État de 1830 à 1960. Alors ces données, elles concernent les types d'administration, la fiscalité, les flux de capitaux, la démographie ou encore l'éducation. L'ouvrage aborde aussi l'après, les trajectoires des pays depuis l'indépendance.
Ah, j'imagine que c'est un travail de longue haleine, un document précieux.
Oui, c'est un livre important. Le titre indique la thèse du livre. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'Empire, jusqu'aux guerres d'indépendance, n'a pas coûté cher à la métropole. Et le régime colonial a surtout profité à une petite minorité de colons et de capitalistes. Mais j'ai choisi de vous parler plus précisément du chapitre passionnant sur les comparaisons avec les autres empires européens. Les colonisateurs n'avaient de cesse de se comparer et de s'observer pour apparaître le plus légitime, celui qui propageait le mieux les bienfaits de la science, du commerce, écrit l'auteur. Et après la Première Guerre, cette concurrence a même une vitrine internationale, la SDN, la fameuse Société des Nations. Et c'est très intéressant de mettre en parallèle, par exemple, la gestion des territoires dans les empires britanniques et français en Afrique.
Oui, on connaît notamment les différences d'approche des administrations anglaises et françaises.
Oui, côté anglais, la doctrine Lugard, j'imagine qu'on dit comme ça, du gouvernement indirect, déléguer une partie de l'autorité administrative, judiciaire et fiscale à des chefs locaux qui acceptaient de collaborer avec le pouvoir colonial. Ainsi, les Anglais critiquaient la, je cite, « bureaucratie des petits préfets despotiques français ». Les Français brocardaient, eux, le paternalisme britannique qui ne cherchait pas à élever les autochtones. Si la colonisation française, marquée effectivement par le centralisme administratif et la concentration urbaine, a augmenté les inégalités et renforcé le dualisme des économies, dans l'Empire britannique, c'est le despotisme décentralisé des autorités locales qui s'est perpétué bien souvent après l'indépendance. Il faut lire également les pages sur l'enseignement primaire qui sont très éclairantes. Un livre important donc, Thomas, Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française de Denis Cogniaux aux éditions du Seuil.
Merci beaucoup Aurélie, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Colonialisme et racisme, c'est avec Guillaume Blanc, professeur à l'université de Rennes 2, que nous abordons le sujet de ce couple infernal.
Enquête de politique sur France Inter.
Bonjour Guillaume Blanc.
Bonjour.
La colonisation est ancienne et le fait de tous les empires à travers les siècles, mais elle est théorisée et justifiée dans l'ère moderne, au 19e siècle. On vient de l'évoquer avec Pierre Sangaravelu, et notamment avec le débat Ferry-Clemenceau. Pour comprendre pourquoi la colonisation a pu être justifiée, il faut se remettre dans les têtes, dans les mentalités de l'époque. Guillaume Blanc, comment les hommes et les femmes du 19e siècle, en France, envisageaient le reste de l'humanité ?
Oui, alors, en effet, il faut vraiment se remettre dans le contexte, hein, on va dire culturel. La manière dont les Françaises, les Français imaginaient l'humanité, c'était un monde organisé en continents et en races, avec d'un côté une surhumanité et de l'autre une sous-humanité. On avait un naturaliste français qui s'appelait Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent, et on est en 1827, il construit un planisphère où il associe en fait l'histoire géologique des continents à celle des berceaux de l'humanité. Et voyez, en fait, il nous explique qu'il y aurait le plus vieux berceau de l'humanité, celui européen, qui dominerait naturellement le monde. Et puis progressivement, on descendrait aux peuples de plus en plus jeunes, arabiques et hindous, puis les éthiopiens. Puis tout en bas, dans la lointaine Afrique, les Cafres, les Hottentots. Alors, tout cela est faux, hein.
Avec l'idée, Guillaume Blanc, que plus les peuples sont anciens, plus ils sont développés, ça expliquerait notre développement, c'est ça ?
Exactement, c'est une hiérarchisation historique et géographique des continents et des races. C'est ce qui va nous donner le racisme biologique, en fait. Mais oui, c'est ça, un métissage qui aurait en fait altéré les races pures, c'est ce qui va suivre hein, cette invention du monde en continent et en race.
Alors ça, c'est dans la tête des scientifiques, mais la population en général, que pense-t-elle de ça ?
Là encore, c'est vraiment important pour s'écarter des débats. Alors, est-ce que les gens étaient mauvais ? Est-ce qu'ils étaient bons ? Est-ce que c'était des atroces colonialistes ?
Non, il s'agit de savoir ce qu'il y avait dans la tête.
Voilà, il faut se mettre dans la culture. En fait, c'est l'altérité, c'est-à-dire la différence fondamentale qui se construisait à l'époque entre des Européens et les mondes, on va dire, de l'autre, de l'ailleurs. Par exemple, je vous parlais du racisme biologique, mais c'est donc Joseph-Arthur Gobineau, un diplomate, écrivain français, qui le théorisait. Et voyez, il disait que la race noire, je le cite hein, bien sûr, était empreinte d'animalité, qu'elle avait des facultés pensantes médiocres. Puis après, on avait la race jaune, des gens pratiques, mais dans le sens étroit du mot. Et puis, il y avait la race blanche, supérieure en beauté, une intelligence énergique. Et c'est ça qu'il y avait dans la tête des individus, tout simplement parce que c'était cela qu'on leur apprenait.
Vous expliquez que, finalement, avant le 19e siècle, il y avait une autre sorte de racisme, le racisme était social.
En fait, on avait ce qu'on peut appeler un racisme, disons, de classe. Alors, vous savez, c'était le sang pur ou le sang bleu en France, disons, pour la noblesse aristocratique. Donc, la noblesse, puis le tiers-état. En fait, des inégalités de classe qu'auraient été des inégalités, disons, de nature. C'était ça qu'on avait au XVIIe, XVIIIe. Et en fait, le XIXe siècle, il y a tout simplement eu une transformation. Avec l'expérience coloniale, sont les Anglais en Inde, les Français en Afrique de l'Ouest, qui sont devenus une espèce de noblesse naturelle, qui ont dominé un tiers-état, mais en fait qui étaient les colonisés, c'est-à-dire des inégalités, cette fois-ci, de race, mais qui seraient tout aussi naturelles. Et c'est ça le glissement.
On a mondialisé cette idée de racisme de classe.
On pourrait dire qu'on l'a mondialisé, ou on pourrait aussi dire qu'une fois que ce racisme de classe a disparu en Europe, puisqu'il y a eu l'abolition de la monarchie, puisqu'il y a eu l'égalité des peuples, enfin du moins en théorie, eh bien mondialisation, mais aussi glissement. Il a fallu reconstruire une autre supériorité, et effectivement là, elle s'est mondialisée. C'était plus la noblesse contre le tiers-état, c'était l'Europe au-dessus du monde.
Expliquez-nous, Guillaume Blanc, ce que vous appelez la tierce chose.
J'emprunte l'expression à Du Bois, qui était un historien afro-américain fin 19e, début 20e siècle. Quand Du Bois cherchait à expliquer les inégalités qui étaient imposées aux Noirs d'Amérique du Nord, il expliquait que toute cette injustice, toute cette violence qui leur était imposée ne tenait qu'à une seule chose, c'est-à-dire la représentation des Noirs comme des tierces choses, au sens où on ne pourrait pas légitimer, justifier la violence faite à ces populations de couleur noire si on n'estimait pas qu'elles ne faisaient pas partie de notre communauté morale, qu'elle n'était pas notre équivalent au sens vraiment humain du terme. Mais non, c'était des tierces choses. Et c'est ce qui fait qu'on peut leur imposer des règles qui ne seraient pas applicables à nous, c'est-à-dire l'esclavage ou après, eh bien, les coups, la colonisation, la violence. Parce que ce sont des tierces choses.
Alors, on connaît là, par exemple, la controverse de Valladolid. Est-ce que ce que vous nous expliquez, la tierce chose, c'est la version, disons, sécularisée de les indigènes, les Indiens ont-ils une âme ?
Tout à fait. Là, on était, comme vous l'avez dit, dans les controverses qui remontent au XVIe, puis XVIIe et au XVIIIe siècle, ça commence à s'effacer. Et là, au XIXe, on n'est non plus dans les indigènes ont-ils une âme, on est dans le discours de Ferry, tout simplement, des races supérieures et des races inférieures.
Il y a une petite contradiction dans cette théorie, parce que si Jules Ferry parle de race inférieure et de race supérieure, il parle aussi d'aller civiliser. Et donc il pense, dans un cadre républicain, universaliste, qu'on peut civiliser les indigènes. Comment ça marche avec cette chosification que vous nous décrivez ?
Tout cela, c'est un faux débat, les droits ou les devoirs de la civilisation. C'est un faux débat parce qu'il est faussé par le racisme et l'altérité, par l'idée qu'il y avait des races profondément différentes. Et donc, vous l'avez dit, c'est la chosification dont parlait Aimé Césaire, c'est-à-dire que les colonisés ou ceux à coloniser étaient vraiment perçus comme des gens, des peuples qui attendaient finalement d'être éclairés. Et c'est là où tout le débat, bon, il n'y a rien de grave à le dire, c'était le 19e siècle, et il y avait un profond racisme qui a justifié ce soi-disant universalisme qui n'est en fait qu'un particularisme européen.
Enquête de politique aujourd'hui et la semaine prochaine, donc deux émissions consacrées à la colonisation, au colonialisme. Enquête de politique réalisée par Christophe Imbert, recherche des archives sonores Franck Olivard, programmation musicale Thierry Dupin et aujourd'hui à la technique Laurent Baudouin. Alors, pour bien comprendre l'idéologie colonialiste, il faut se plonger un peu dans les arcanes de la citoyenneté que la France octroyait aux indigènes. Et nous allons prendre l'exemple de l'Algérie. La colonisation est de nature et de structures diverses entre l'Asie et l'Afrique, entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, et même en Afrique du Nord, entre Tunisie, Maroc et Algérie. Le cas algérien dit beaucoup de la façon dont le colonialisme tentait de se dépêtrer avec cette question. Qui sont les indigènes? Étaient-ils des Français comme les autres? Non, bien sûr. C'est toute la vérité de l'entreprise coloniale, toute son ambiguïté. Sylvie Thénault, chercheuse au CNRS et spécialiste de la colonisation et de la décolonisation algérienne.
Les Algériens étaient de nationalité française, mais avec une citoyenneté qu'on appelle soit paradoxale, soit diminuée, parce qu'ils ont la nationalité française, mais ils n'ont pas tous les droits de la citoyenneté. Ils votent, mais dans un second collège, qui limite leur représentation. On donne toujours la priorité aux élus du premier collège, qui est celui des citoyens français. Pour les emplois publics, c'est un très bon exemple. Ils ont accès à certains emplois publics, mais pas à tous. Par exemple, dans le domaine de la justice, jusqu'en 1944, ils ne pouvaient pas devenir magistrats. En revanche, ils pouvaient être greffiers. Dans la convention de capitulation de 1830, il y a l'engagement de respecter les coutumes. Ça a servi de fondement à ce qu'on a appelé le statut personnel musulman, c'est-à-dire que les Algériens n'étaient pas soumis au code civil français, donc respect des coutumes, donc tout ce qui va être droit familial, les règles du mariage, de l'héritage, ne sont pas celles du code civil, sont celles d'un droit musulman que les Français vont essayer plus ou moins de codifier, de rigidifier. Donc ils sont français, de statut personnel musulman et avec une citoyenneté diminuée. C'est pas une absence totale de citoyenneté, c'est important. Concrètement, pour accéder à une citoyenneté pleine et entière, il leur fallait abandonner le statut personnel musulman. C'est très intéressant parce que là, pour moi, il y a un héritage aujourd'hui. C'est que finalement, la question posée, c'est peut-on être musulman et français de plein droit ? C'est comme si, effectivement, ce statut personnel musulman était considéré comme quelque chose qui ne faisait pas d'eux réellement des Français. Cette condition de l'abandon du statut personnel musulman pour accéder à une pleine citoyenneté, Elle était vécue par les Algériens comme une forme d'acte d'apostasie, ce qui explique que très peu de gens ont fait la démarche. On cite le total de 6000 Algériens, enfin Français musulmans, qui auraient fait cette démarche d'abandon du statut personnel pour devenir citoyen de plein droit.
Mais la volonté politique des autorités françaises était plutôt de favoriser cette démarche ou de la laisser minoritaire ?
Globalement, dans cette histoire, il y a quelque chose de très important, c'est qu'on a aujourd'hui un malentendu sur la notion d'assimilation. Parce que quand vous me demandez si la démarche était de favoriser leur accès à une citoyenneté française pleine et entière, vous avez dans l'idée que l'idéal de la politique coloniale, c'est l'assimilation. Effectivement, chez des républicains, je dirais intégraux, il y a cette idée-là. Sauf que on est quand même à peu près d'accord sur le fait que l'état de civilisation de ces gens-là ne leur permet pas encore d'accéder à une citoyenneté française pleine et entière. Donc on retombe sur la mission civilisatrice. Et puis surtout, il y a aussi une conception coloniale de l'assimilation qui considère que l'assimilation, c'est pour les Européens, mais c'est pas pour les colonisés. Si l'Algérie devient un département en 1848, c'est parce qu'il y a des Européens qui viennent en Algérie, qui s'y installent. On considère que des Européens ne peuvent pas être soumis à un régime militaire. Et donc, l'assimilation qui passe par le fait que l'Algérie devient un département, qu'on va installer un régime communal avec un conseil municipal comme en métropole, c'est pensé pour les Européens.
Les Européens, c'est-à-dire pas forcément d'ailleurs les Français de métropole, mais les Européens, les Espagnols, tous ceux qui s'installent en Algérie et qui ouvrent boutiques ou des fermes. Et tous ceux-là peuvent devenir Français à part entière, les autres non, parce qu'il y a cette condition.
C'est même plus subtil que ça, le droit est assez fabuleux. Les Algériens sont déjà Français. Ils sont Français de nationalité. Mmh. Et c'est plein de paradoxes. La démarche pour aboutir à une pleine citoyenneté en abandonnant le statut personnel musulman, on appelle ça une naturalisation. C'est quand même extraordinaire, ils sont déjà Français. Le droit du sol profite aux enfants d'étrangers. Puisqu'ils sont étrangers, ils accèdent à la nationalité française, mais tout de suite une nationalité avec une citoyenneté totale. Mais les Algériens, cette loi sur le droit du sol, ils sont déjà Français, donc ça ne leur profite pas.
Donc la pleine citoyenneté, ou non, dépend uniquement de la religion.
Oui, de ce statut personnel musulman. Après, je complexifie. Parce qu'en fait, le mot musulman, il ne renvoie pas à la religion. Il prend un sens beaucoup plus large. Je vous donne un exemple. Il y avait des gens qui se convertissaient au catholicisme. Eh bien, dans les archives de l'administration, on peut les voir appelés des catholiques musulmans. Donc, vous comprenez bien que cette catégorie musulman, elle désigne une culture plus vaste, au-delà de la seule foi musulmane. Moi, j'hésite pas à parler en termes de race.
D'ailleurs, à l'époque, ils n'hésitaient pas à parler en termes de race.
Ils n'hésitaient pas, et même pour les Européens. Ce statut musulman, c'est pas du tout une question de laïcité. Parce que, en fait, au fur et à mesure du temps, vous avez eu des revendications d'accès à la pleine citoyenneté qui ont émergé en Algérie. Et puis, il y a eu des lois en 1919, puis ensuite, il y a une ordonnance en 1944, qui ont permis à un certain nombre de Français musulmans de devenir pleinement citoyens. Donc en fait, cette catégorie de musulmans, elle renvoie à une culture, mais elle a aussi un côté social. Parce que la loi de 1919 ou l'ordonnance de 1944, qui élargit la citoyenneté de certains Français musulmans, elle se fonde sur des critères sociaux. Des médaillés militaires, certains commerçants, des gens titulaires de diplômes, des gens qui travaillent dans la fonction publique. Donc il y a l'idée un peu des évolués. Donc eux, ils peuvent rester Français musulmans. Ils ont suffisamment évolué pour pouvoir avoir accès à une citoyenneté un peu élargie. En fait, le mot intégration, j'ai longtemps cherché sa définition précise sans trouver. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous dirais sur cette intégration, c'est qu'en fait, c'est un concept assez flou, qui se traduit difficilement par des mesures concrètes. Est-ce qu'il faut le collège unique des lecteurs ? Qu'est-ce qu'il faut ? C'est très flou. Le grand promoteur à l'origine de ce terme intégration, c'est Jacques Soustelle, qui en 1955 devient gouverneur général de l'Algérie, et puis qui ensuite fera partie des partisans résolus de l'Algérie française, avec Georges Bidault, etc.
Et les putschistes.
Et les putschistes.
Mais justement, lui, Jacques Soustelle, quand il parle d'intégration, est-ce qu'il veut en finir avec les règles que vous nous avez décrites, c'est-à-dire faire que chaque citoyen français, qu'il soit de Corrèze ou d'Algérie, ait les mêmes droits exactement, et que les députés algériens siègent au Parlement français avec les mêmes, dans les mêmes conditions? C'est ça qu'il veut?
En fait, à l'époque, le mot intégration, il n'a pas complètement ce sens politique. C'est beaucoup pensé chez Jacques Soustelle, en 55 en particulier, comme un programme de réforme économique et sociale. Parce qu'en fait, à partir de 1945, le nationalisme gagne en puissance en Algérie. L'idée s'impose chez les nationalistes qu'il va falloir passer par la lutte armée parce que les mobilisations conduisent à des massacres.
Ça, Sylvie Thénault, les historiens en général, le datent de cet IF, 1945, les massacres.
Oui, c'est un grand tournant, 1945. Il y a le feu au lac. Mais on est moins focalisé sur la question politique que sur les réformes économiques et sociales. Parce qu'en fait, on lie l'agitation nationaliste ou les mobilisations nationalistes à un état de misère. Et donc l'intégration, c'est beaucoup lié à l'idée qu'il faut combattre la misère en Algérie. Il y a une étude en 1955, justement, le rapport Maspétiole, qui fait une étude des niveaux de revenus en Algérie coloniale. Il y a 5 classes. Les 2 premières classes, qui sont les plus pauvres, qui concernent surtout un secteur agricole miséreux, vous avez 93% de la population algérienne qui sont dans ces catégories les plus pauvres. Donc, du point de vue des autorités à l'époque, le problème, c'est cette misère qui ferait le lit du nationalisme. Et donc, un programme de réforme qui vise l'intégration, c'est d'abord un programme de développement économique et social. Concernant le statut, depuis 1945, on discute d'un collège unique d'électeurs, mais enfin, il est quand même globalement rejeté en Algérie. En 1954, vous avez à peu près 1 million de Français pleinement citoyens, descendants des Européens, et puis les Juifs qui, eux, ont été totalement naturalisés. Et puis vous avez environ 8 millions d'Algériens. Vous voyez bien le rapport démographique. Si vous faites un collège unique d'électeurs, la minorité coloniale est complètement absorbée et dominée. Donc la problématique du collège unique après 1945, le refus évidemment des élus coloniaux et la difficulté des gouvernements qui éventuellement voudraient peut-être réfléchir à cette question, la difficulté c'est que si vous mettez en place le collège unique d'électeurs, l'Algérie française elle disparaît.
Et l'Algérie française a disparu, bien sûr, sans ce collège unique que vient d'évoquer Sylvie Thénault. C'était le cours de l'histoire. Et justement, la semaine prochaine, pour notre second volet sur le colonialisme, nous parlerons de cette idée qu'est-elle devenue dans notre société contemporaine. Elle fait encore débat. Et nous retrouverons nos 3 historiens, qui sont aussi 3 professeurs, qui explorent avec leurs étudiants le fait colonial autant que l'idée colonialiste. Nous parlerons du post-colonialisme, du néocolonialisme, du décolonialisme, de mémoires concurrentes ou partagées. D'ailleurs, vous pouvez déjà podcaster cette émission. Je vous rappelle les derniers ouvrages de nos invités du jour. Pierre Saint-Garavelou, L'épicerie du monde, la mondialisation par les produits alimentaires du 18e siècle à nos jours, avec Sylvie Vénère chez Fayard. Guillaume Blanc, Protéger et détruire, gouverner la nature sous les tropiques, avec Guérin Mathieu et Grégory Quenet aux éditions du CNRS. Et Sylvie Thénault vient de publier Les ratonnades d'Alger, 1956, une histoire du racisme colonial au seuil. On se retrouve samedi prochain après le journal de 18h. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.